Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire, c'est le nom de votre rendez-vous quotidien jusqu'à 14h30 avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. Nous allons folâtrer doublement au cœur de l'histoire aujourd'hui, puisque nous allons attacher nos pas à ceux d'Alexandre Dumas.
Mais celui que l'on appelle Alexandre Dumas père.
Père, oui, pour le distinguer de Dumas fils, l'auteur de La Dame aux Camélias. À ce propos, si vous êtes d'accord, je vais même commencer par vous parler d'Alexandre Dumas grand-père.
Allez, si chez vous, vous avez des révélations à nous faire sur ce personnage, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail en vous connectant au site de la radio www.europe1.fr et bien entendu sur la page Facebook de l'émission.
N'hésitez pas à poser vos questions également. Simone Berthier sera là dans la deuxième partie de cette émission pour y répondre.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Habits fantastiques, gilets éblouissants, chaînes d'or, dîner de sardanapale, crève les chevaux et aime les femmes. Ainsi le décrit un chroniqueur de l'époque, ainsi demeure l'image d'Alexandre Dumas, géant du 19e siècle littéraire. Alexandre Dumas se gargantua des lettres à la peau mate et aux cheveux crépus, mais avant de faire mieux connaissance avec le père des trois mousquetaires, amoureux de la cuisine, vous savez, et des voyages, laissez-moi vous dire deux mots de son propre père, qui s'appelait Thomas-Alexandre Dumas. Ce père, si on peut dire le père de ce père hors norme, était un obliot normand du pays de Caux, Alexandre-Antoine David de la Paillerie. Il était allé rejoindre à Saint-Domingue son frère qui avait fait fortune dans diverses plantations et puis il s'était disputé sur place avec son frère et il s'était installé dans une autre partie de l'île, cette île qui aujourd'hui est devenue Haïti. Il avait acheté à prix d'or ce Alexandre-Antoine David de la Paillerie, donc le grand-père d'Alexandre Dumas. Il avait acheté une esclave noire, Cézette Dumas, qui était une jeune femme d'une grande beauté dont il avait eu 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. La belle Cézette était morte en 1772 et à ce moment-là, Alexandre-Antoine, qui voyait sa situation changer en France parce qu'il bénéficiait d'un héritage, il avait revendu tout ce qu'il possédait sur place à Saint-Domingue et vendu aussi ses propres enfants parce que par leur mère, ses enfants étaient des esclaves. Il avait pris le chemin du retour en France. Je vous vois ouvrir de très grands yeux, Fatima.
Je suis choquée.
Mais c'est ainsi. Mais oui, on était dans ce système de l'esclavage assez incroyable. Il est donc rentré en France. Il y avait un de ses fils quand même qu'il avait vendu à Réméré. Il l'avait mis de côté, si l'on peut dire. Et du reste, il va le racheter, c'est vraiment le terme, et le faire venir en France. Ce petit garçon, c'est le fameux Thomas Alexandre, donc le père d'Alexandre Dumas. Qui est métisse, évidemment. Le tout jeune homme devient apprenti menuisier. Il jouit d'une force herculéenne. On va en parler tout à l'heure. C'était assez phénoménal, la force de ce garçon. Il était aussi d'un caractère très entier. Et quand il apprend, sur le tard, que son père va se remarier avec une servante qui est de 30 ans sa cadette, vous voyez qu'il y avait quand même chez les Dumas une certaine hérédité.
Spécial, oui.
Le jeune homme se dispute avec lui. Ça le prive de ses ressources. Il s'engage dans l'armée. On est à ce moment-là en 1786. Il entre au régiment des dragons de la reine. Et c'est là qu'il prend le nom de sa mère. Parce que son père veut pas qu'il utilise le nom noble des David de la Paillerie. Il reprend donc le nom de Dumas. Il choisit aussi de porter usuellement son deuxième prénom. Il sera donc Alexandre Dumas. Alors pour ceux qui arriveraient un peu en retard et qui prendraient l'émission en cours, l'Alexandre Dumas dont je vous parle, ce n'est pas l'écrivain, c'est donc bien pour l'instant son père. Arrive la révolution de 1789, entre-temps le père du garçon est mort, il a donc récupéré à son tour une partie de l'héritage. En août 89, il est envoyé à Villers-Cotterêts en mission de maintien de l'ordre et c'est là qu'il se lie avec un certain nombre de militaires qui vont devenir plus tard des généraux d'Empire, notamment Carrière de Beaumont, enfin un certain nombre de ses futurs camarades. Mais en fait de liaison, Il noue surtout à ce moment-là des liens avec la fille du patron de l'auberge où il est cantonné. L'auberge s'appelle l'Écu de France. La fille, c'est Marie-Louise Labouret. Eh bien, il devient très vite son amant et il l'épousera dès qu'il obtient un grade suffisant. On est là en 1792. La lune de miel ne va pas durer longtemps, 17 jours, parce qu'on est en pleine guerre révolutionnaire, évidemment. Et Dumas père, grand-père, devrais-je dire, rejoint les troupes de la toute nouvelle République. Alors, il entre dans l'armée du Nord, sous les ordres de Dumouriez. Il accomplit là un véritable exploit, puisqu'on le voit mettre en déroute une bonne douzaine de chasseurs tyroliens qui l'avaient pris en embuscade. Ça lui vaut d'être nommé maréchal des logis, avant d'être élevé au grade de lieutenant-colonel par un ami antillais, métis comme lui, le célèbre chevalier de Saint-Georges. Je vous fais grâce d'un certain nombre d'exploits militaires de notre officier métis, mais le fait est, je vous l'ai dit, que ce Dumas est une force de la nature doublée d'un tempérament hors du commun. Il sera bientôt général de brigade, puis général de division. Il connaît une ascension fulgurante, celle de ces soldats de la République qui vont faire triompher la Révolution.
Le singe, à l'instant, c'était un extrait de la bande originale du film « L'autre Dumas ».
Alors, le général Dumas, le père de notre Alexandre, commande successivement l'armée des Pyrénées-Orientales, celle des Alpes, puis de l'Ouest. Mais à ce moment-là, on est sous la terreur, il démissionne parce qu'il est outré par les massacres qui se perpètrent en Vendée, ce qui lui fait risquer la guillotine et lui vaut le surnom de « Monsieur de l'Humanité ». Néanmoins, au moment de Vendémiaire, un peu plus tard, 4 ans plus tard, c'est lui qu'on appelle pour combattre le soulèvement royaliste. Seulement ce jour-là, un essieu de sa voiture rompt sur la route à hauteur de Gonesse et c'est ce qui va permettre à Bonaparte de prendre en fait la tête des opérations. Vous voyez à quoi peut tenir une carrière. Après ça, voilà Alexandre Dumas, grand-père donc, nommé à l'armée de Sambre-et-Meuse avant de se brouiller dans les Alpes avec Kellermann. Il est sur tous les fronts, on le voit assiégé Mantoue. On a l'impression qu'il est tout seul, mais il y a un peu de ça. Il est toujours le premier, toujours au-dessus de la mêlée. Il bat Würmser, il passe dans le Tyrol et rejoint le général Joubert. Et là, de nouveau, il se couvre de gloire. Il gagne le nom, le surnom de Diable Noir qu'il va justifier amplement par son rôle majeur et tellement négligé par les historiens dans la campagne d'Égypte. Ça ne va pas empêcher Bonaparte de le mettre à la retraite d'office en 1802. À l'époque, il n'a que 40 ans. Seulement, on est là au lendemain de l'insurrection de Saint-Domingue, à un moment où l'on évince de l'armée les généraux de couleur. Par suite, là, il faut dire aussi qu'il y a une vraie rivalité entre Alexandre Dumas, grand-père, et Bonaparte. Par suite de ses nombreuses blessures, ce jeune retraité est estropié de la jambe droite, sourd de l'oreille droite, paralysé de la joue gauche et son œil droit est presque perdu. Mais il souffre surtout d'un ulcère à l'estomac, ulcère qui va se transformer peu à peu en cancer. On peut imaginer que tout ça a été aggravé, évidemment, par l'ingratitude de Bonaparte. C'est en vérité cette ingratitude qui le terrasse. La seule joie d'Alexandre Dumas, de ce monsieur du père d'Alexandre Dumas dans ce marasme, c'est justement la naissance en 1802, après 2 filles, dont une seule avait survécu, la naissance d'un fils. Ce petit Alexandre, je dis petit, mais d'emblée c'est un très gros bébé. « J'adorais mon père », confiera plus tard Alexandre Dumas, l'écrivain cette fois. Peut-être à cet âge, ce sentiment que j'appelle aujourd'hui de l'amour n'était-il qu'un naïf étonnement pour cette structure herculéenne et pour cette force gigantesque que je lui avais vu déployer en plusieurs occasions. Peut-être n'était-ce qu'une enfantine et orgueilleuse admiration pour son habit brodé, pour son aigrette tricolore et pour son grand sabre. Aujourd'hui encore, le souvenir de mon père dans chaque forme de son corps, dans chaque trait de son visage, m'est aussi présent que si je l'eusse perdu hier.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30, c'est au cœur de l'histoire sur Europe 1. Laissez vos commentaires sur la page Facebook de l'émission à Franck Ferrand qui vous conte aujourd'hui la vie mouvementée d'Alexandre Dumas.
Et le petit Alexandre n'a que 4 ans à peine au moment où son père meurt. Et évidemment pour sa mère, pour Marie-Louise, c'est un changement de statut, de vie complet. Elle va revenir chez ses propres parents et donc il est élevé par ses grands-parents maternels à Villers, donc à Villers-Cotterêts, hein, qu'on connaît dans l'histoire pour une toute autre raison, mais ça nous entraînerait trop loin. Il faut dire que son grand-père s'est réservé un logement dans l'ancien hôtel de l'Épée. Il vit là, essentiellement entre sa mère et puis cette sœur, qui est de 9 ans plus âgée. Il vit les difficultés qui sont celles d'un mulâtre dans la France de l'Empire et de la Restauration, évidemment, parce qu'il n'est pas comme tout le monde, ce petit Alexandre Dumas. À 15 ans, on le destine au notariat. Il entre comme saute-ruisseau, comme on dit, chez un notaire, puis chez un autre. À vrai dire, il s'ennuie à périr, ça n'est pas du tout sa vocation. Il se lie néanmoins d'amitié avec un certain Adolphe de Leven. Ça va jouer un rôle important. Adolphe de Leven, qui est un noble d'origine suédoise et qui, pendant un séjour de 6 mois à Paris, découvre de son côté le monde des lettres, celui des spectacles. Il rentre à Villers-Cotterêts avec vraiment des étoiles dans les yeux. Et de retour, il déclare à son copain « Vous voulez faire fortune ? Faites-vous auteur dramatique. Le théâtre est une mine d'or. » Et voilà les deux amis qui se disent qu'après tout, une pièce de théâtre, c'est pas si difficile, ils devraient pouvoir réussir à faire ça. Ils vont en écrire 2 pièces, même plus tard une 3e en collaboration. Toutes sont refusées. Ironie, il faut savoir que Alexandre Dumas, bien sûr, va commencer sa carrière par de grands succès au théâtre. Quant à Leven, lui-même, il fera le livret du Postillon de Longjumeau, qui sera sans doute l'opérette la plus célèbre du 19e siècle. Si l'on en croit ses mémoires, à 20 ans, Dumas est un jeune homme très pauvre. Sa mère lui annonce que le patrimoine familial s'élève à 253 francs. Alors il prélève 53, c'est des francs hors de l'époque, hein, mais tout de même, il prélève 53 francs sur cette somme et il décide de partir pour Paris. Il va tenter l'aventure. Hein. C'est son côté un peu Rubempré. Il va multiplier. Alors il passe chez le maître de poste, bien entendu, et il joue au billard. Il est très très habile. Il est habile à toutes sortes de choses, d'ailleurs, notre Dumas. Et il réussit, en misant sur ses propres coups, il réussit à multiplier cette somme par 12, ce qui fait qu'il arrive avec une petite somme rondelette déjà à Paris. Que fait-il ? Il rend visite aux anciens compagnons d'armes de son père, à Victor, à Sébastiani, à Jourdan. Tout ça ne donne pas grand-chose. Et finalement, c'est plutôt la recommandation du général Foy, qui se trouve être le député de Villers-Cotterêts, qui va lui valoir d'entrer dans les bureaux du duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, c'est le futur roi Louis-Philippe, c'est le fils de Philippe Égalité. Alors Alexandre Dumas est tout content, finalement il a trouvé un poste et il écrit à son bienfaiteur « Je vais donc vivre de mon écriture, mais je vous promets de vivre un jour de ma plume ». Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose évidemment. Alexandre Dumas multiplie les aventures, il en a une notamment avec une lingère de 28 ans, lui n'en a que 21, qui lui donne un fils et ce sera le futur Alexandre Dumas fils. Il se met à gagner vraiment bien sa vie, environ 1500 francs par an, ce qui lui permet de faire venir sa mère au Faubourg Saint-Denis et il arrive à fourguer au Théâtre de l'Ambigu une pièce écrite avec Leven qu'il avait écrite en 25, puis un vaudeville écrit avec Vulpian et Lassagne. Ça, c'est en 1826. Il propose également des nouvelles à un éditeur, mais l'éditeur renacle un peu. « Faites-vous un nom, d'abord, et je les prendrai », lui dit-on. Le succès, Dumas le rencontre enfin en 1829, il a donc 27 ans, avec un drame historique, l'une des premières pièces romantiques, Henri III et sa cour, qui va ouvrir la voie à la célèbre révolution de la pièce de Victor Hugo, Hernani, qui est présentée l'année suivante. On peut dire que du jour au lendemain, grâce à Henri III et sa cour, Alexandre Dumas va connaître la gloire. « Ma vie, dira-t-il, a connu un changement rapide pendant les 4 heures que dura la représentation. Il est désormais reconnu, il sera bientôt célèbre. Il empoche 30 000 francs. Il lui a donc fallu, si l'on calcule, 6 ans pour conquérir Paris. Il se fait aussi des ennemis, bien entendu. Il faut dire que la pièce est une critique à peine voilée du régime de Charles X. Alors on porte à Charles X une pétition pour l'interdiction de la pièce. Et il répond au pétitionnaire : « Mais messieurs, quand il s'agit de théâtre, je n'ai comme tout bourgeois de Paris que ma place au parterre. » Ce n'est pas tout à fait vrai, car en fait, la censure de Sa Majesté était était assez efficace à l'époque. Dumas a beau mécontenter la cour, il n'en devient pas moins bibliothécaire du duc d'Orléans, donc au Palais Royal. J'ai presque envie de dire que le duc d'Orléans s'amuse des critiques de son bibliothécaire contre Charles X, contre son cousin. Ça va, évidemment, ce poste de bibliothécaire l'aide beaucoup dans ses recherches. Il y a une ombre à ce moment-là, c'est la maladie de sa mère qui fait une attaque et qui va rester paralysée. Survient donc dans les semaines qui suivent la fameuse révolution de 1830, les Trois Glorieuses qui vont mettre Louis-Philippe sur le trône, ce qui veut dire que donc le patron d'Alexandre Dumas, le duc d'Orléans, devient le roi des Français. Lafayette, pendant cette période de crise, a confié à Dumas le soin d'aller organiser la garde nationale en Vendée. On ne peut pas dire qu'il ait eu de grands résultats dans cette mission-là, Dumas. Cette révolution, donc, va changer sa situation. Dans les années qui suivent, Dumas continue à fréquenter la cour, mais il est de plus en plus critique contre Louis-Philippe. Et son activisme politique ne tarde pas, évidemment, à indisposer la cour. Il vaut mieux qu'il se mette au vert. Alors il part en voyage, il va faire un voyage en Suisse, puis il en fera un certain nombre dans toute l'Europe avec son fils et avec l'éditrice Ida Ferrier. Ida Ferrier qu'il épousera plus tard en 1840. Il partage un appartement rue de Rivoli. Ils vont se séparer au bout de 4 ans. Mais à cette époque, Dumas est déjà en train de quitter le théâtre pour le roman historique. On se rapproche de l'époque de la rédaction des Trois Mousquetaires. On peut dire qu'il y a en lui un dramaturge qui a eu un certain nombre de succès, mais qui n'aboutit pas à la gloire qu'il attend. Et puis, il y a un romancier rentré qui va bientôt donner la pleine mesure de son talent. Il faut dire que la mode est au roman historique. Avant Dumas, il y a eu Walter Scott. Scott, disait Augustin Thierry, est l'homme que je regarde comme le plus grand maître qu'il y ait jamais eu en fait de divination historique. Et ce Walter Scott, avec Ivanhoé, etc., vous savez, a ouvert la voie. Vigny écrit son Saint-Marc, Hugo va bientôt publier Notre-Dame de Paris, Balzac, ce sont les Chouans, bien entendu. On voit Mérimée publier une chronique du temps de Charles IX. Tous ces grands écrivains essaient donc de développer la veine du roman historique, mais pour l'instant, ils ne touchent pas le grand public. Pour l'instant, il ne touche encore qu'un cercle d'initiés, d'amateurs d'histoire. Le grand public, il ne va être touché, je devrais même employer l'expression ébranlé, que par Alexandre Dumas. Il voulait être dramaturge, il finira romancier.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Europe 1, vous écoutez Au cœur de l'histoire. Littérature et histoire se mélangent pour le thème du jour jusqu'à 14h30. Franck Ferrand vous parle de la vie d'Alexandre Dumas.
Et dans la deuxième partie de cette émission, après 14h, j'aurai la grande joie de recevoir Simone Berthière, qui vient de publier « Dumas et les mousquetaires, histoire d'un chef-d'œuvre ». Je cite Simone Berthière, « C'est une biographie partielle et ciblée, dit-elle, qui ne vise pas à épuiser la matière d'une vie agitée et vagabonde, remplie à ras-bord de maîtresses et de créanciers. Elle porte évidemment la trace de mes curiosités et de mes préférences. » C'est donc Simone Berthière qui parle. « Je souhaite qu'elle donne à quelques-uns l'envie de relire Dumas, pas seulement les mousquetaires, et qu'elle les amène à voir en lui, outre l'amuseur qu'il se flattait d'être, un inépuisable pourvoyeur de rêves et un authentique écrivain. » Et la biographe ajoute, il se croyait promis à une double carrière de dramaturge et d'homme politique. Eh bien, en fait, nous avons vu et nous sommes en train de voir que sa véritable carrière sera celle d'un romancier. Simone Berthière sera donc là avec nous dans la deuxième partie pour creuser la question de l'écriture de Dumas. Comment a-t-il mis au point ses chefs-d'œuvre? Pourquoi, comment a-t-il écrit Les Trois Mousquetaires? Mais nous n'en sommes pas arrivés là tout de suite. Vous m'avez vu tout à l'heure, vous m'avez vu depuis tout un moment, Fatima, froncer les sourcils. C'est que j'étais embêté parce que j'ai cité tout à l'heure, j'ai parlé de Rubempré. C'est Rastignac le nom propre que je voulais sortir, mais il m'a fallu, vous voyez, il a fallu 3-4 minutes pour que ce nom tranquillement revienne. L'ambitieux à nous de Paris, c'est pas Rubempré évidemment, c'est Rastignac chez Balzac. Voilà, donc il y a évidemment chez le jeune Dumas, lorsqu'il quitte Villers-Cotterêts, la nature d'un Rastignac. Je clôt la parenthèse et je reprends le fil de mon histoire. Ce qui manquait à nos grands écrivains, lorsque jusqu'alors ils se mêlaient de romans historiques, c'était cette espèce de capacité à ramener l'histoire à des drames simples. Dumas, lui, sait cela. Et non seulement il le sait, mais il le sait de naissance, en quelque sorte. Chez lui, c'est inné, c'est un véritable don. Et si l'histoire lui sert de creuset, elle ne l'embarrasse jamais. Qu'est-ce que l'histoire, écrira-t-il, un clou auquel j'accroche mes romans. Il n'est donc pas un historien. Il n'aime d'ailleurs pas tellement la recherche, ça l'ennuie. Il est de nature bouillonnante et impatiente, Alexandre Dumas. Il faut qu'on lui fournisse la matière première. Lui n'est pas l'historien, il est celui qui va faire vibrer l'histoire. Alors, il lit assez peu les vieux mémoires, les vieux grimoires. Il s'entoure, en revanche, de gens qui lisent pour lui. Je pense à Nerval, au départ, à Théophile Gautier, à Petrus Borel, à Arsène Housset. Et puis, évidemment, à cet Auguste Maquet, dont nous allons reparler tout à l'heure, cet ancien prof d'histoire au lycée Charlemagne, dramaturge frustré, fils d'industriel, passionné d'histoire et qui, lui, va apporter à Dumas une matière première déjà bien affinée. Au départ, d'ailleurs, il lui avait apporté une pièce de théâtre qui s'appelait « Soir de carnaval ». Dumas l'a reprise, l'a bousculée dans tous les sens, il l'a retroussée, si je puis dire, revue corrigée, il l'a rebaptisée « Bathilde » et de fait, la pièce est acceptée. Elle est jouée avec un certain succès. Alors, dans la foulée, Auguste Maquet apporte à Alexandre Dumas une grosse nouvelle, un roman qu'il a écrit, Le bonhomme Buva. Ça se passe sous la Régence, c'est toute une histoire de la conspiration de Cellamare, que j'aurai peut-être l'occasion d'ailleurs de vous raconter d'ici quelques temps à ce même micro. Dumas reprend tout ça, l'étoffe lui donne de la vie, du suc, et ça devient le chevalier d'Harmental. Et ce chevalier d'Harmental est un grand succès, parce que dans ce roman de Dumas et Maquet, devrait-on dire, les personnages, même historiques, sont caractérisés. Ça, c'est un des secrets d'Alexandre Dumas. Il adopte un point de vue sur chacun et il le développe, ce point de vue. Et il l'amplifie et il le tient jusqu'au bout. Car aussi, il introduit des personnages à lui, des personnages auxquels on va s'attacher et qui sont censés avoir influé directement sur l'histoire, mais sans avoir laissé de traces. Donc ça introduit une sorte de connivence avec le lecteur. Dumas se projette lourdement dans l'action qu'il décrit, il fait corps avec elle, comme on dit, il n'y a pas d'espace entre l'arbre et l'écorce, et avec tout cela, il y a ce tempérament, cette gauloiserie, cette légèreté, en somme, archi-française.
C'était la valse d'Alexandre sur Europe 1, retrouvée sur la bande originale du film « L'autre Dumas ».
On est totalement dans le sujet, finalement. Oui. « L'autre Dumas », ce film avec Benoît Poulvorde et Gérard Depardieu, un film de Safine Hébon. Alors, je vous disais que Dumas a fait une découverte. Oui, on peut dire que dans la compagnie d'Auguste Maquet, il a découvert que l'histoire peut devenir un véritable canevas et même un moteur de roman. Alors il sollicite Maquet, il lui demande une histoire, il va lui falloir des personnages de l'époque de Louis XIII, du Richelieu, de l'Anne d'Autriche, du Buckingham. Évidemment, vous comprenez que tout ça va nous mener vers les mémoires de Monsieur d'Argentan, capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires du roi, en fait des mémoires apocryphes signées Gatien de Courtis. On y revient dans la deuxième partie avec Simone Berthière. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup Simone Berthière. J'ai eu l'occasion de vous dire à ce micro souvent que son Mazarin était un véritable monument. Eh bien, ce n'est pas d'un personnage de ce genre, ce n'est pas d'un Mazarin ou d'une Marie Leginska que nous allons parler. C'est bien de notre cher Alexandre Dumas, de cet homme qui faisait vibrer l'histoire.
sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Bienvenue si vous nous rejoignez au cœur de l'histoire, consacré aujourd'hui à Alexandre Dumas et compté bien entendu par Franck Ferrand.
En compagnie de Simone Berthier qui, en s'asseyant à ce micro, me dit « Oh, s'il vous plaît, ne dites pas trop que Mazarin est un monument parce que ça fait peur aux gens. Mais il y a aussi des monuments très aimables, très agréables et qu'on visite avec plaisir. Et puis, à côté des grands châteaux, il y a de petits castels pleins de fantaisie. Et c'est le cas de cet ouvrage aux éditions de Fallois, Dumas et les Mousquetaires, histoire d'un chef-d'œuvre. » De Simone Berthier.
Je vous remercie de la rectification. C'est quand même un gros livre, mais je pense qu'il n'est pas ennuyeux. Voilà.
Au contraire. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, Simone Berthier, pour comprendre l'invraisemblable succès qu'a connu Dumas sur ce genre, dont il va devenir quasiment l'auteur éponyme. Hein,
oui,
quand on
oui.
dit Alexandre Dumas, ça fait tout de suite penser au roman historique. C'est qu'on est à un moment où la presse populaire, la presse à grande diffusion, est en pleine explosion.
Oui. Alors, il y aurait pas de roman historique à la manière Dumas sans la création du roman feuilleton.
C'est ça.
Alors, c'est au lendemain de la révolution de 1830 que Émile de Girardin, qui était propriétaire d'un journal, alors ne me demandez pas les noms des journaux, c'est la presse.
Alors, c'était la presse.
C'est la presse, mais je les mélange tous.
Il y avait aussi le siècle de Le Drurelin.
Oui, non, parce qu'il y en avait quatre qui ont misé sur le créneau et parce que Dumas s'est partagé entre les quatre. Alors, je ne sais jamais ce qu'il a publié dans quel journal.
En tout cas, il commence bien avec Girardin.
L'inventeur, c'est Girardin. Alors, Girardin a l'idée de miser sur deux choses. Il y a d'abord un élargissement du public potentiel avec la diffusion de l'instruction publique. Il y a beaucoup plus de gens qui savent lire. Et d'autre part, les moyens techniques permettent d'imprimer les journaux à un petit peu moins cher. Alors, l'idée, c'est de toucher un très large public. Mais évidemment, comment le fidéliser ?
Ça
marche uniquement par abonnement. À l'époque. Donc, les abonnements sont en général réservés aux bourgeois qui peuvent faire les mises de fonds premières. Alors, l'idée de Girardin, c'est de baisser de moitié au moins le prix de l'abonnement en utilisant pour financer son journal des petites annonces. Donc, à la quatrième page, vous avez effectivement des petites annonces de toute espèce.
Ce sont les débuts de la presse moderne.
C'est absolument les débuts de la presse moderne. Et du coup, les abonnements sont bon marché. Et on touche un public très large. Alors, le public en question n'est pas...
Il faut le tenir en haleine, ce public.
Il faut le tenir en haleine.
Et donc, il faut lui dire constamment la suite au prochain numéro.
Alors la formule, la suite au prochain numéro, n'est pas de l'invention de Girardin, elle est de l'invention du docteur Véron, qui est un de ses confrères et rivaux. Mais la formule est bien inventée par Girardin. Donc, l'idée, c'est de publier un roman et qui, naturellement, s'interrompt de jour en jour, se prolonge et oblige le lecteur à acheter le journal pour avoir la suite.
Le succès des feuilletons de Dumas est tel qu'il est très bien payé. On le paie 3 francs la ligne, ce qui est beaucoup. Hein, les pigistes étaient à 30 sous la ligne à l'époque, donc 3 francs.
Oui.
Et ça l'oblige, ça l'amène d'ailleurs à tirer beaucoup à la ligne, dit-on.
Oui, non, mais là, vous anticipez. Parce que ce n'est pas Dumas qui a vraiment lancé le roman feuilleton. Beaucoup s'y sont essayés, mais lui, à l'époque, vous avez un petit peu sous-estimé sa notoriété comme dramaturge.
Oui,
il était archi connu, très, très, très connu, et il a gagné des sommes fabuleuses. Seulement, les choses se sont gâtées dans la mesure où, voyant arriver beaucoup d'argent, il a établi son budget sur les sommes probables. Et naturellement, elles ne sont pas toujours arrivées. Donc, il s'est couvert de dettes très rapidement. Et d'autre part, pour payer ses dettes, il a écrit un peu n'importe quoi. Donc, à force d'écrire des pièces de théâtre minables pour faire rentrer de l'argent, le
public s'est lassé.
Et la poule à l'œuf d'or en est morte.
Bien sûr.
Donc, à ce moment-là, il a un besoin intense d'argent. Mais au début, il fait de la critique littéraire, il fait des récits de voyage, il fait des récits relativement courts, parce que sa formule pour écrire, c'est la formule courte qui lui convient. Il a l'habitude de prendre un épisode dramatique et très resserré, et il liquide ça en 5 actes quand c'est pour le théâtre, et il liquide ça en un feuilleton quand c'est pour le journal. Et il est absolument à l'aise là-dedans. Vous avez employé la formule connue de lui d'ailleurs, mais on la déforme toujours. C'est pas votre faute, elle est déformée partout. Il cherche dans l'histoire un clou pour accrocher
son... Vous la citez
non, pas
d'ailleurs la vraie formule.
Son roman, mais son drame.
Son drame.
Donc, il cherche dans l'histoire des sujets de drame bien passionnants. Alors, le cadre historique, peu importe, on change, hein, on transpose l'action du Moyen-Âge au temps d'Henri VIII, ça n'a pas d'importance.
Ce que vous montrez de façon incroyable, c'est que à la limite, son histoire est écrite avant même qu'il sache dans quel contexte il va la placer.
Mais bien entendu, parce que ce qui l'intéresse, c'est le drame, c'est le choc des passions. Alors après, bon, il faut mettre des noms dessus, et il prétend que dans l'histoire, il trouve toujours des épisodes qui permettent d'illustrer, évidemment, le drame entre le mari, l'épouse et la maîtresse.
Mais il se sert vraiment de l'histoire comme d'une toile de fond et d'un réservoir de personnages.
Absolument.
Et non pas comme un ressort dramatique intrinsèque.
Hein, ça, mais bien entendu.
C'est la grande différence avec Druon, par exemple.
Voilà, hein. Alors au départ, c'était ça. Mais quand il va passer au roman, bien, il va s'apercevoir entre-temps que l'histoire est intéressante.
Voilà.
Alors, en fait, c'est un travailleur énorme. Hein. On oublie toujours. Il a une capacité de travail colossale et il s'informe. Et il fait de l'histoire, il lit les mémorialistes, il lit les historiens parce que, si vous voulez, écrire des romans, à ses yeux, c'est vulgaire, c'est bas de gamme, c'est pour le public populaire, les grands genres, ceux qui donnent la gloire, ceux qui permettent d'arriver à l'Académie française, qu'il vise explicitement, c'est le théâtre d'une part ou l'histoire d'autre part. Donc quand le théâtre commence à ne pas rendre, il a envie de se rabattre sur l'histoire avec un grand H.
Oui, de devenir historien.
De devenir
vraiment,
historien pour de bon. Et il publie un siècle de Louis XIV d'ailleurs dans ce but. Donc il travaille vraiment l'histoire. Et alors à ce moment-là, il y prend goût et il s'aperçoit que c'est intéressant. Et donc il regarde l'histoire d'un tout autre œil. Et son rapport à l'histoire change complètement à partir du moment où il s'aperçoit que l'intérêt peut se porter sur une civilisation, une période, les mœurs, les habitudes. Et donc il élargit énormément son champ de vision.
Et l'histoire va devenir alors là véritablement son moteur. En fait.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La confession sur Europe 1, l'une des musiques qui illustre le film L'autre Dumas réalisé par Saphine Ebou avec Benoît Poulvord et Gérard Depardieu.
Alors, nous avons vu Alexandre Dumas prendre l'histoire au sérieux, en quelque sorte, et c'est Auguste Maquet qui va lui fournir au départ les premières trames. Simone Berthière.
Oui et non. Enfin, comment dirais-je ? Les choses sont venues un petit peu par hasard. Donc Eugène Sue a eu, Dumas manquait d'argent. Dumas cherchait à s'imposer. Bon, et comment se tirer d'affaire ? Il se trouve que le mystère de Paris d'Eugène Sue ont un succès absolument fabuleux, mais fabuleux et complètement inattendu. Ça passait pour un roman populaire à l'origine, et en réalité, toute la France suivait les mésaventures de Fleur de Marie, du Chourineur, etc. Bon, jusque dans les plus hautes classes de la société. Il paraît que le président du conseil, avant d'ouvrir la séance du matin, demandait ce qui était arrivé à Fleur de Marie dans la dernière livraison du journal. Bon. Et que ça a rapporté à Su, bien entendu, une fortune.
Il aurait écrit des feuilletons pour la télévision.
Je l'ai dit, ça, il aurait fait un fabuleux auteur de séries télévisées.
Série, oui,
d'autant qu'il avait le sens du découpage. découpage théâtral. Alors donc, Dumas ne se lance dans ce créneau que quand il apparaît que c'est vraiment, que ça sera plus rentable encore que le théâtre. Mais il méprisait le roman historique, encore une fois. Il ne voulait pas en écrire au départ. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il cherche des sujets. Alors, en réalité, en cherchant des sujets, bon, l'histoire, c'est comme... Alors, Dumas n'avait pas beaucoup d'imagination. Proust prétend d'ailleurs qu'il n'en avait aucune. Bon, je veux dire qu'il n'invente pas ses sujets. Il a besoin, finalement, d'un élément extérieur pour le lancer. Alors, il invente, il brode beaucoup, mais il lui faut un point de départ. Et donc, le point de départ, il le trouve dans l'histoire. Alors, simplement, il commence par faire ce qu'on appelait des scènes historiques à l'époque, c'est-à-dire, en réalité, des drames racontés. Il prenait un épisode historique et au lieu de le dialoguer pour le mettre en scène, il le raconte, mais ça fait une manière de nouvelle, si oui, vous voulez. Ça. Mais il est obligé quand même de faire, dans ce cas-là, ce qui relève du régisseur de théâtre. C'est le régisseur qui s'occupe des décors, des costumes. Bon, s'il n'y a pas de régisseur, si c'est lui qui raconte, mais il est obligé quand même de se représenter les choses. Et du coup, ça l'intéresse. C'est une des raisons de sa plongée dans le quotidien des siècles passés, dans la réalité concrète. Et je pense que c'est une de ses grandes chances. Alors, il commence par là. Et ensuite, quand il entreprend les premiers romans historiques, il entreprend en même temps La Reine Margot et Les Trois Mousquetaires. Et La Reine Margot, en réalité, c'est de l'histoire romancée. Parce qu'il n'y a pas de personnage fictif dans La Reine Margot. C'est un épisode d'Histoire de France qu'il met simplement en roman. C'est-à-dire, il raconte, c'est une période, un passage très dramatique d'ailleurs, il raconte et il évoque autour toutes les mœurs, les habitudes de vie, enfin la société du temps d'Henri III. Il avait déjà la documentation puisqu'il avait fait une pièce de théâtre sur la question. Donc vous voyez, Les Mousquetaires, ça va être autre chose. En fait, ce que je voudrais montrer, c'est que Les Mousquetaires, au fond, sont un cas isolé dans l'ensemble production historique.
Ils ne sont pas toujours représentatifs, finalement.
Les Trois Mousquetaires ne sont pas représentatifs du roman historique. Je prétends à la fin que Les Trois Mousquetaires ne sont pas un roman historique.
Oui, enfin,
je vais jusque-là. Mais parce que, par exemple, vous avez parlé de Walter Scott, et vous avez raison, c'est le prototype, le modèle du roman historique partout en Europe. Mais c'est un fond d'histoire, et les personnages fictifs inventés par Walter Scott sont des personnages imaginaires, bien sûr, mais qui incarnent les différents types de situations qu'ont pu rencontrer les gens à l'époque concernée. Autrement dit, c'est l'histoire qui fournit la trame narrative, et les personnages sont là simplement pour la vivre, pour donner chair au récit, mais ils n'ont pas d'autonomie par rapport à l'histoire.
Alors que chez Dumas, ils peuvent en acquérir une qui peut être très grande.
Voilà.
Oui.
Alors, c'est dans La Reine Margot, c'est pareil. L'histoire impose les thèmes. Bon, l'histoire du procès de la Mole et Cocona, c'est historique. Bon, mais c'est ça qui dirige l'action. Et tellement La Reine Margot n'est pas c'est un personnage important, mais au service de l'action. Et quand elle a récupéré la tête de son amant après l'exécution, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Comme personnage de roman, elle est perdue. On ne peut plus rien en tirer.
Elle est trop historique, finalement.
Hein ?
Elle est trop historique.
Eh bien, elle est trop historique. Alors, l'histoire paralyse, finalement, l'invention. Tandis que dans Les Mousquetaires, au contraire, Dumas utilise une autre formule, c'est-à-dire que vous avez des personnages historiques qui vivent un certain nombre d'aventures parfaitement connues, répertoriées.
Et puis, il y a un deuxième niveau, en quelque sorte, avec des personnages qui, eux, sont totalement autonomes.
Alors, il y a des et au contraire, il y a des personnages. Je les appelle semi-fictifs, parce qu'on va vous dire
ils ont
existé.
Enfin,
on publie
très
même
théorique,
en ce moment des biographies de D'Artagnan, mais
qui n'a rien à voir avec le D'Artagnan
pas
grand-chose.
C'est
un petit peu
à voir, et c'est beaucoup moins passionnant que ce que Dumas lui fait faire, bien sûr. Quant aux autres, ce sont des noms. Alors, ces personnages-là que j'appelle semi-fictifs, bien, ils ont leurs aventures propres. Et leurs aventures propres sont, dans les Trois Mousquetaires, bien plus importantes que ce qui arrive à Anne d'Autriche et à Buckingham. C'est à eux qu'on s'intéresse. Et après tout, bon, il a récupéré les ferrets, très bien, mais on est content pour lui, pour D'Artagnan.
Oui.
Bon, et à la fin, ben, Buckingham est tué. Qu'est-ce que ça peut nous faire ?
C'est du roman, en gros, et sous-titré historique, en fait.
Voilà.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, Franck reçoit Simone Berthière, historienne, auteure de Dumas et les Mousquetaires, histoire d'un chef-d'œuvre.
Un livre qui est sorti à peu près en même temps que le dictionnaire amoureux de Alexandre Dumas, chez Plon, dans la célèbre collection de Jean-Claude Simoen, le dictionnaire amoureux, par Alain Decaux de l'Académie française. Alain Decaux qui est le, alors on peut dire, le fan numéro un d'Alexandre Dumas et qui a joué un grand rôle notamment dans la restauration du château de Monte-Cristo à Marly, Marly-le-Roi, qui est un peu, en quelque sorte, le port d'attache de la mémoire d'Alexandre Dumas.
Hein.
C'est un endroit où il faut aller d'ailleurs.
Ah, mais j'y suis allée, il faut y aller, ça vaut la peine.
Alors, Alexandre Dumas, vous nous l'avez montré, est devenu auteur de romans historiques presque par nécessité. Oui. Mais ça va être un succès phénoménal. Vous livrez la liste de livres qui sont parus, enfin donc des feuilletons dans un premier temps, qui sont parus entre mars 1844 et janvier 1851. D'accord. Vous avez là Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot, 20 ans après, Le Chevalier de Maison Rouge, La Dame de Montsoreau, Joseph Balsamo, Les 45, Le Vicomte de Bragelonne, Le Collier de la Reine, Ange Pitou. C'est tout à fait incroyable.
Oui. Alors,
que de succès en rafale, en cascade.
Voilà.
Et après tout ça, il faut en quelque sorte justifier le genre.
Eh bien, là,
Dumas nous dit « je suis un pédagogue avant tout ».
Oui, alors c'est après coup qu'il ajoute la dimension pédagogique à son œuvre, pour la justifier, pour que ce soit quand même une grande œuvre. Il ne veut pas être qu'un amuseur, si vous voulez, on le lui reproche. Donc il a voulu d'abord instruire, enseigner l'histoire de France aux petits Français. Alors je pense que ça n'était pas son intention première.
Non,
il voulait simplement plaire pour avoir le public le plus large.
Mais il instruit
parce qu'il fournit aux Français quand même une vision simple en image d'Épinal de l'histoire et qui est une vision qui n'est pas fausse dans son ensemble parce qu'il est fidèle aux grands événements, il ne triche pas sur eux, il triche sur les dates, mais les grands événements y sont. Et d'autre part, l'image qu'il donne de notre passé est conforme à celle que donnaient les historiens de son temps. Alors on peut ne pas être d'accord, mais lui ne trahissait pas l'histoire. On dit toujours qu'il l'a trahi, c'est pas vrai. Il y a une sorte de fidélité globale à l'histoire dans ses livres.
L'histoire ne se borne pas à lui fournir des anecdotes, écrivez-vous. Elle a pour lui un intérêt propre qu'il conduit paradoxalement à lui être infidèle, mais pour mieux la servir, car il la recompose et vous montrez admirablement que ce qu'il écrit, c'est une sorte de grande légende française, car non seulement la trame, l'histoire est française, mais la façon de vivre les choses, à la fois cette espèce de volonté de vivre très rablaisienne et en même temps cet intérêt pour les raffinements du cœur et de la passion, tout ça est quand même intrinsèquement français.
Oui, et il y a autre chose aussi, il y a la reprise du rêve chevaleresque qui apparaît dans tous les pays bien entendu, mais qui a été très développée en France et notamment au Moyen-Âge et au XVIIe siècle. Et dans les Mousquetaires en particulier, c'est le rêve chevaleresque qui prend le dessus sur tout le reste et nos héros finalement tentent l'impossible, se mettent en danger constamment, tout en respectant un certain nombre de règles de morale qui ne sont pas toujours celles de la société, mais qui sont infiniment respectables. Et finalement, ils gagnent. Et au total, dans les dénouements, les puissants leur rendent hommage. Ils se sont moqués de Richelieu, de la reine et de Mazarin et de Louis XIV. Et finalement, les souverains s'inclinent devant eux parce que ce sont eux qui étaient porteurs de véritables valeurs, de la jeunesse, de l'énergie et de la chevalerie.
Alors Patrick nous demande par Internet, Alexandre Dumas et Molière, même manière de travailler. C'est un clin d'œil à l'émission que j'ai faite sur l'affaire Corneille-Molière. Alors je réponds en un mot, pas du tout. Dans l'histoire de Corneille et de Molière, nous avons bien une association qui fonctionne sur le principe du théâtre du XVIIe siècle. Un chef de troupe comique qui monte un certain nombre de pièces non titrées, qu'il assume a posteriori. Dans le cas d'Alexandre Dumas, de Maquet et de ses autres collaborateurs, on est bien dans un travail de de réécriture, en fait.
Oui, oui.
Dumas reprend les textes. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler et on n'aura pas le temps de le faire maintenant. Mais c'est un travail dans lequel Dumas apporte, transcende littéralement la matière première qu'on lui fournit.
Oui, oui, oui. Mais c'était un fabuleux rebouteur de pièces boiteuses, de romans mal fichus. Hein. C'est comme ça qu'il était connu à l'époque.
Et il les a littéralement...
Avec Dumas, avec Maquet, Maquet fournissait le premier jet, mais Dumas fournissait le point de départ et surveillait toute l'évolution et rien ne passait entre les mains des éditeurs sans avoir été revu par Dumas. Donc c'est quand même Dumas et pas Maquet qui est l'auteur de des romans.
Là où l'histoire se répète, on a l'impression d'une génération à l'autre de vivre la même chose, c'est que Alexandre Dumas, dans une fin de vie difficile, marquée, comme vous l'avez dit, par des dettes, des choses matériellement difficiles.
Et puis par la déception politique, dans la mesure où, après la chute de Louis-Philippe, bon, il voit arriver quand même l'Empire, c'est pas la République.
Oui, le Second Empire, c'est pas le régime
non,
dont il rêvait du tout.
Non.
Et finalement, sa seule vraie grande joie à la fin, ce sera de voir le succès de son propre fils, Alexandre Dumas, fils. Hein, ça, c'est assez extraordinaire.
Tout en se sentant très profondément différent de son fils, qui lui écrit des drames réalistes.
Et vous citez d'ailleurs, vous dites « Alexandre a une réflexion émouvante et profonde. Moi, je prends mes sujets dans mes rêves. Mon fils les prend dans la réalité. Je travaille les yeux fermés. Il travaille les yeux ouverts. Je dessine. Il photographie. » Merci infiniment, Simone Berthière, d'être venue nous donner quelques précisions sur cette vie foisonnante d'Alexandre Dumas. Et une personne qui aurait pu être alors vraiment une héroïne d'Alexandre Dumas, c'est ma voisine de gauche pour le moment. Bonjour Faustine Bollard.
Bonjour à tous. Jusqu'à 15h30 aujourd'hui, nous allons parler de ces hommes et de ces femmes qui n'ont connu qu'un seul partenaire sexuel. Comment vit-on lorsqu'on a décidé de consacrer sa vie amoureuse, érotique, à un homme ou à une seule femme? Est-ce qu'on a le sentiment de passer à côté d'autres expériences, surtout à l'heure aujourd'hui du couple Kleenex un petit peu et de la multiplication des relations sexuelles. Venez nous dire si vous vous sentez épanoui, si vous regrettez parfois votre choix au moment où votre couple est un petit peu plus fragile. 39-21 pour nous joindre, faustine.europe1.fr. Vous découvrirez que les jeunes décident de plus en plus de se réserver pour le grand amour de leur vie, contrairement à tout ce qu'on peut dire.
Voilà, et un dernier petit conseil, ouvrez Alexandre Dumas à n'importe quelle page, vous ne serez jamais déçus. À demain, merci Fatima.
À demain Franck.